Nous lisons au livre de la Genèse, au chapitre 3, et des versets 1er à 7. Du verset 1er au verset 7e. Notre thème, ce soir et le suivant, des yeux pour Christ. Le premier soir, il était question de penser pour Christ. Le second soir, hier soir, d'une langue pour Christ. Et ce soir, il est question Dieu pour Christ. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Nous arrêterons là la lecture de la parole de Dieu. Parmi les merveilles que Dieu a faites, il y a l'œil. Un chef-d'œuvre de perfection. En effet, cet organe est capable de transmettre au cerveau et par fil, le nerf optique, des images en couleur, qui dit mieux. Et par cet organe, nous sommes mis en contact avec le monde prodigieux de la lumière et des couleurs. Un chef-d'œuvre réellement de perfection. Faisons un peu d'anatomie. Nous avons appris, étant enfants, que l'œil est fait d'une chambre noire sur laquelle vient s'enchasser une fenêtre vitrée. Il est fait également d'un obturateur à vitesse variable. Les paupières lui servant également d'essuie-glace. Et le tout lubrifié de façon parfaite par un liquide appelé les larmes. Six muscles le dirigent et l'orientent automatiquement dans toutes les directions. Une loupe vivante, le cristallin, se met au point toute seule. La choroïde, il maintient une température adéquate et constante pour éviter sa détérioration. Et au fond, une pellicule photographique capable de prendre 10 clichés secondes. 10 clichés secondes pour se remettre à neuf à chaque fois. Mais une merveille de création. Nous avons deux yeux et nos deux yeux nous permettent de saisir le relief des choses autour de nous. Croyez-vous le hasard capable d'une telle merveille? Il faut être fou pour penser que le hasard ait fait l'œil. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, l'Éternel les a fait l'un et l'autre, dit la Bible. L'œil est une création de Dieu. Vous est-il arrivé de remercier Dieu pour ces yeux qu'il vous a donnés? Mais quelle grâce, quelle bénédiction que ces yeux qui nous permettent tant de choses, tant de choses. L'œil, Jésus dans l'Évangile l'appelle la lampe du corps. Et en effet, quelle lampe ! Pour sa part, Victor Hugo a dit « L'oreille est un chemin vers le cœur », mais nous pourrions dire que l'œil est lui aussi un chemin vers le cœur, parce que le cœur s'alimente par l'œil. Et l'œil est, dans un premier temps, un organe de réception. Nous recevons énormément par le regard, parce que qui dit œil dit aussi regard. C'est donc un organe qui nous permet de recevoir énormément de choses. Par lui, par exemple, nous pouvons admirer un beau paysage. Les couleurs de l'automne en ce moment, dans votre belle vallée. Un vrai festival de couleurs. Par lui, nous pouvons admirer, contempler une belle nuit étoilée. Nous pouvons être sensibles à la beauté. Mais par lui aussi, par l'œil, nous pouvons entrer en convoitise. Nous pouvons pécher, la Bible parle, de regards envieux, de regards adultères, de telle manière que, par le regard, malheureusement, nous pouvons pécher, et nous l'avons lu tout à l'heure, Adam et Ève, nos premiers parents, ont péché par là. Nous avons lu tout à l'heure que la femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue. Nous nous souvenons aussi que David a péché aussi par ses regards, par ses yeux, en 2 Samuel 11. Ce soir, là où il prit l'air sur sa terrasse, en regardant dans une direction, quand il vit Bathsheba, c'est par son regard qu'il a péché. Et que de tentations amorcées par le regard, surtout dans ce siècle de l'audiovisuel, dans ce siècle qui étale tant de choses sous nos yeux. Ah, vous qui habitez ce gentil village, eh bien, restez-y, mes amis. Oui, restez-y, parce qu'en ville, savez-vous qu'il y a des endroits à Paris où je n'ose pas m'y promener avec mes enfants. Tellement on étale toutes sortes de choses malsaines. Jésus dit, quiconque regarde une femme et la convoite dans son cœur, nous le disions le premier soir, a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Un regard et l'adultère est commis. Mais alors, comment garder nos regards dans un tel monde ? Comment les préserver, les garder du péché ? Eh bien, si l'on se connaît une faiblesse à regarder quelque chose, mieux vaut éviter de la regarder, cette chose. Ah, je devine ce qui vous trotte par là. Faut-il aujourd'hui marcher dans ce monde les yeux bandés, les yeux fermés ? Il y a tellement de choses qui peuvent nous souiller. Un seul regard peut noircir notre cœur, notre âme, tacher notre conscience. Mais faudrait-il que nous nous promenions les yeux bandés ? Le psalmiste dit au psaume 119e, verset 37, « Détourne mes yeux des choses vaines. » Il y a tellement de choses vaines dans ce monde qui peuvent nous faire du mal et desquels nous pouvons détourner nos yeux. C'est déjà une chose. Et puis, à l'exemple de Job, nous pourrions faire un pacte avec nos yeux. Job, lui, avait fait un pacte avec ses yeux, dit-il, dans son livre, au chapitre 31 et au verset 1er. « Je n'aurais pas porté mes regards sur une vierge, dit-il. » Imaginez, il vivait déjà, cet homme, dans la Nouvelle Alliance. je n'aurais pas porté mes regards sur une vierge. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Et Jésus dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. C'est dur comme parole nous venant du Sauveur. Jésus par là a voulu dire combien le regard peut nous faire sombrer dans le péché. Il a voulu nous dire qu'il est important que nous veillions sur nos yeux, sur nos regards. En effet, le chrétien peut-il laisser aller ses regards n'importe où? Eh bien non. Il est un texte dans le livre d'Ésaïe le prophète qui est très important à cet égard et qui dit ce qui suit. En Ésaïe chapitre 33, verset 15, « Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles ?» Eh bien, celui qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Oui, si l'on se connaît une faiblesse à regarder dans telle ou telle direction, mieux vaut se bander les yeux. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Jette-le loin de toi. Et c'est le Christ qui parle. En d'autres termes, pour garder ses yeux, ses regards, il convient de les placer sous la sensibilité d'une conscience régénérée, d'une conscience purifiée, d'une conscience qui leur servira de filtre et d'anti-parasite. Mais il importe, pour garder ses regards, pour veiller sur eux, il importe que nos consciences aient été régénérées, purifiées par le sang de Christ. Mais est-ce le cas chez nous ce soir? Où en sommes-nous sur le plan de nos consciences? Il est absolument impossible de veiller sur ces regards si nos consciences n'ont pas été purifiées, régénérées par le sang du Christ. La conscience, alors, peut servir, comme je le disais, d'antiparasite. Elle filtre tout ce que nos yeux voient. Et quand on parle Dieu, on parle aussi de lecture. À ce sujet, quels sont les livres que nous affectionnons le plus? Ceux de la série noire ou ceux de la série Lumière? Peut-être que ce soir même, ce soir-là, après la réunion, le Seigneur nous demandera de faire un tour vers notre bibliothèque pour la débarrasser de tous ces livres de la série noire qui nous font tant de mal. Que de chrétiens aujourd'hui se permettent toutes sortes de lectures qui leur font du mal, énormément de mal. Eh bien, Dieu voudrait que nous nous débarrassions de ces livres pour nous donner uniquement à la série Lumière, à commencer par sa parole, bien sûr, avec tout ce qui touche à son livre. La série Lumière, ceci ne veut pas dire que nous ne pouvons pas, bien sûr, lire de bons livres qui n'ont rien à faire avec l'Écriture. Je le fais couramment, surtout en tant qu'évangéliste. Je lis énormément. Je suis obligé de le faire pour me tenir dans ce siècle, à la page, afin de répondre au mieux, avec le plus de précision possible, aux questions que pose ce monde, aux problèmes de ce monde. Mais c'est une chose que de lire des livres qui nous présentent un peu ce que le monde pense, les crises par lesquelles il passe, et puis ces livres alors qui sont réellement des livres de la série noire, corrompus, ces livres entre guillemets « cochons » qui nous font tant de mal et que nous laissons dans les rayons de notre bibliothèque. Eh bien, Dieu veut absolument que nous nous en débarrassions. Ce serait une victoire ce soir si tel était le cas pour nous. Et puis, le regard, l'œil, est aussi un moyen d'expression. Si l'œil est un chemin vers le cœur, l'œil exprime aussi énormément de choses. Il y a tout un langage de l'œil. L'œil, en quelque sorte, est capable de parler. Oui, il y a tout un langage de l'œil. La Bible, ainsi, parle de toutes ces expressions du regard, entre autres, la joie. L'œil est capable d'exprimer la joie. Quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie, dit le psaume 34e. L'œil peut aussi exprimer l'envie. Jésus parle en Marc chapitre 7 de regards envieux. L'œil peut aussi exprimer l'orgueil. Le regard hautain, dit le livre des Proverbes. Il peut exprimer la tristesse. Il peut aussi exprimer la jalousie, la méchanceté, l'hypocrisie, l'angoisse. Mais il peut aussi manifester l'amour. Un regard affectueux se reconnaît vite. Jésus, l'ayant regardé, le jeune homme riche, l'aima. Et ce regard que le Christ laissa tomber sur l'apôtre Pierre au jour de son reniement. Un regard. Un regard plein de lui-même. Un regard de grâce. Un regard d'amour. C'est ce regard-là qui fit que Pierre raccrocha avec le Christ, lui qui avait décroché après avoir collé à son maître pendant 3 ans. Le voilà maintenant, Pierre, décroché par l'épreuve, suivant son maître de loin. Et en le suivant ainsi de loin, il s'était retrouvé dans le camp des ennemis du Christ. Quand on suit le Christ de loin, c'est ce qui nous arrive, irrésistiblement. D'ailleurs, l'apôtre Pierre avait suivi son maître à une distance calculée. Il n'avait pas voulu perdre son maître de vue, mais il n'avait pas voulu non plus qu'on le remarquât pour avoir été avec Jésus. De telle manière que c'est à une distance calculée qu'il s'était situé par rapport à Jésus, comme tant et tant de chrétiens qui tiennent le Christ à distance. Ils ne veulent pas le perdre de vue, mais ils le suivent néanmoins de loin, comme Pierre. Eh bien, en le suivant ainsi, Pierre s'était situé dans le camp des ennemis du Christ. Et ce fut l'escalade du reniement. Jusqu'au juron. Il en est arrivé là, se chauffant à cette flamme qu'on avait allumée dans la cour du souverain sacrificateur, à cette flamme qui entretenait la haine des ennemis du Christ. Lui se chauffait à ce feu-là. Ah, il était décramponné. Il avait décroché. Tout à coup, le coq chanta. Ah, ce chant du coq était monté chez lui comme de ses profondeurs, pour le secouer terriblement dans sa conscience. Heureusement que le Christ, se retournant, laissa tomber sur lui un regard extraordinaire qui permit à Pierre de raccrocher. Ah, si le Christ avait laissé Pierre, avec ce chant du coq dans ses oreilles et dans son cœur, c'eût été la fin de Pierre. Heureusement qu'il y eut ce regard. Il est des regards qui glacent, qui éloignent. Ces regards qu'on a portés sur Pierre, là, dans cette cour. Tu as été avec Jésus, certainement. Et ces regards-là avaient glacé Pierre et l'avaient poussé à davantage de découragement. Tandis que celui du Christ lui permit de raccrocher. Celui du Christ le rapprocha. Oh, mes amis, si peut-être ce soir vous étiez un peu comme Pierre, décroché par l'épreuve peut-être, ou par autre chose, puissiez-vous voir sur vous ce soir ce regard du Christ qui voudrait que vous raccrochiez, ce regard plein de sa tendresse, de son amour, ce regard plein de lui-même. Oui, l'œil peut exprimer l'amour. Il peut aussi être rempli de péché, dit l'apôtre Pierre en 2 Pierre 2,14. Ils ont les yeux, dit-il, pleins d'adultère et de péché. Ah oui, que de fois j'ai été en présence d'hommes, de femmes, au regard, mais vraiment corrompus, abîmés, littéralement salis par le péché. Il y a tout un langage des yeux, du regard. On dit à juste titre que les yeux sont le miroir de l'âme. C'est vrai que les yeux parlent. Mais qu'est-ce que devrait exprimer le regard du chrétien? Eh bien, tout d'abord, la franchise. Il est de ces regards fuyants, hypocrites, qui ne devraient jamais être sur le visage d'un enfant de Dieu. La Bible dit que tes yeux regardent en face. J'aime bien ce verset. Que tes yeux regardent en face. Proverbe 4, 25. Que tes yeux regardent en face. Il devrait aussi exprimer la joie de notre salut, la joie de notre relation personnelle avec Jésus-Christ, la joie du service que nous rendons au Christ. Il devrait aussi être affectueux, exprimer l'amour que nous avons pour les hommes. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Je me souviens de cette dame qui, un jour, dans notre église, est venue vers moi pour me dire, c'était la première fois qu'elle venait, qu'elle assistait à une réunion, cette femme est venue vers moi pour me dire « Mais il est curieux de constater ici chez vous que vos yeux sont comme allumés. » Oui, ils sont comme allumés. Alors j'ai pu lui dire, bien madame, c'est que nous avons mis le contact. Nous avons mis le contact avec le Christ. Nous sommes en contact avec lui. Êtes-vous, madame, en contact intérieurement avec votre Sauveur? Vos yeux seraient alors tout allumés, tout pétillants de la joie de la relation avec le Christ. Mais nos yeux devraient aussi savoir pleurer, comme ceux du Seigneur qui ont pleuré. Nous nous souvenons que le Christ a pleuré devant Lazare mort. Il a aussi pleuré devant Jérusalem. Ses yeux ont pleuré. N'était-il pas vrai que très souvent, devant la misère des hommes, leur angoisse, leur crise, leur perdition, nos yeux restent secs? Nos yeux ont-ils déjà pleuré sur la perdition des hommes, des femmes, d'en reconvilier ou ailleurs? Ceux du Christ ont pleuré. Ceux de l'apôtre Paul ont pleuré. Paul a parlé des perdus en pleurant. Où sont-ils ces chrétiens qui savent pleurer? Oh, non pas qu'ils soient animés d'une sensiblerie charnelle, pas du tout, mais que réellement dans leur cœur, sur leur cœur, pèse le fardeau de la perdition des hommes et des femmes sans Christ. Nos yeux savent-ils pleurer? Ceux du Christ ont pleuré. Nos yeux, en réalité, devraient se faire l'écho d'un autre regard, d'un regard intérieur, du regard de la foi. La Bible parle des yeux de la foi. Et ainsi, l'apôtre Paul, en Éphésiens 1, 18, dit ce qui suit, « Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. » Nous avons donc des yeux au cœur. « Afin que vous sachiez l'espérance qui s'attache à votre appel. » Les yeux du cœur. Le regard de la foi. Le regard physique est très lié au regard de la foi. Et c'est dans la mesure où, intérieurement, nous regardons au Christ que nos regards physiques sont gardés du péché. C'est dans la mesure où nous fixons le Christ intérieurement, de façon intense, que notre regard est protégé, notre regard physique. Ces deux regards sont très liés. La Bible nous dit que Moïse marchait comme voyant celui qui est invisible. Et David, au psaume 16, verset 8, de dire « J'ai constamment l'Éternel sous les yeux du cœur, bien sûr. » David regardait constamment vers Dieu dans son cœur. Mais à propos, où en sommes-nous quant à notre regard intérieur? Quelle est notre vision de Dieu ce soir? Comment le voyons-nous? Pour beaucoup, Dieu est un être flou, très vague. Une vraie tâche. Oui, une tâche dans leur esprit. Voilà ce que représente Dieu pour beaucoup. C'est peut-être de cette manière-là que vous voyez Dieu, des yeux de votre cœur. Quelque chose de très imprécis, de vague, de flou. Et de cette manière-là, c'est une atteinte que nous portons à son image de marque. Dites-moi, une tâche? C'est précisément ce que je vois quand j'ôte mes lunettes. En regardant au balcon, je vois des taches vertes, des taches bleues, je suis myope, des taches rouges. C'est ce que je vois aussi dans le fond de la salle. Pour ceux qui sont devant, ils sont privilégiés, je peux les voir assez distinctement. Mais ça n'est pas glorieux pour Dieu que de le voir comme une tache dans notre esprit. La Bible dit que, de façon naturelle, eh bien, notre vue sur Dieu est très imprécise. Elle est vague, elle est floue. Nous avons besoin d'être corrigés à ce niveau. Mais comment être corrigé dans notre regard intérieur? Eh bien, il nous faut aller au seul opticien qui peut quelque chose pour nous. Le seul divin opticien, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui, lui, nous corrigera en nous donnant les vers de la foi. Ces vers que porteront la monture de la parole de Dieu, parce que nous ne pouvons regarder à Dieu qu'au travers de sa parole, qu'au travers des vers de la foi. Mais est-ce bien les vers de la foi que vous possédez ce soir? Parce que certains me disent, j'ai bien la bonne monture, la parole de Dieu. Nous l'avons dans la famille depuis des siècles, de père en fils. Alors à cela je réponds, il est bon d'avoir la bonne monture, il est bon d'avoir la parole de Dieu. Mais avez-vous les bons vers? Avez-vous les vers de la foi? Je me souviens un jour qu'une personne m'a dit, mais j'ai la Bible et pourtant pour moi Dieu reste quelque chose de tellement vague, je ne sais pas avec qui j'ai affaire quand on me parle de lui, quand on me parle du Christ. Mais avez-vous les vers de la foi, madame? Vous avez, certes, la bonne monture, celle de la parole de Dieu, mais avez-vous les vers de la foi? Montrez-moi donc vos vers, madame. Et j'ai remarqué, en considérant ces vers, qu'il s'agissait des vers des bonnes œuvres. et de la tradition. Un verre était celui des bonnes œuvres et l'autre de la tradition, de telle manière qu'elle voulait regarder à Dieu au travers de ses bonnes œuvres et de ses traditions. Sa vision de Dieu restait floue, terriblement floue. Je lui ai dit, madame, il vous faut changer de verre, garder la même monture, mais changer de verre, enfin avoir les verres de la foi. Oui, les verres de la foi. Est-ce que votre vue est ainsi corrigée? Le Seigneur pourrait ce soir la corriger de façon extraordinaire. Vous pourriez ce soir, au travers de la parole de Dieu et dans la foi, avoir de Dieu alors vraiment une vision juste, vraie, exacte. Que d'hommes et de femmes se représentent Dieu parce que précisément ce Dieu-là dans leur esprit n'est qu'un point d'interrogation, une tâche. Alors il se le fabrique là, l'imagination aidant. Et la plupart du temps, ce Dieu-là, eh bien, on n'en veut pas parce qu'il nous ressemble. Mais Dieu ne nous ressemble pas. Et Dieu veut que nous ayons de lui vraiment une vision exacte. Il veut que nous le connaissions. Et il n'est que la Bible pour nous le faire connaître. Dieu, dans ce livre, se révèle à l'homme. Il se fait connaître, mais ce livre appelle la foi. Il veut la foi. Si on aborde ce livre, si on l'approche sans la foi, c'est la porte ouverte à tout. Il faut donc faire confiance de tout son cœur dans ce que nous lisons dans ce livre. Ce livre n'est pas tellement un livre dans lequel des hommes nous parlent de Dieu. Bien sûr que dans ce livre, des hommes parlent de Dieu. Mais ce ne sont pas là, disons, des réflexions qui nous sont données sur ce que des hommes ont pensé de Dieu, leur cogitation, le fruit de leur réflexion personnelle, de leur méditation sur Dieu, mais pas du tout. Ce livre n'est pas tant un livre dans lequel des hommes ont pensé de Dieu, leur cogitation, le fruit de leur réflexion personnelle, de leur méditation sur Dieu, mais pas du tout. Ce livre n'est pas tant un livre dans lequel des hommes parlent de Dieu. C'est un livre dans lequel Dieu parle des hommes et puis aussi de lui-même. Quand on affirme ceci, on nous renvoie la balle en ces termes, mais ce sont quand même des hommes qui l'ont écrit. Oui, ce sont des hommes, mais ces hommes ont été inspirés par Dieu. Ils n'ont pas écrit n'importe quoi. Ils ont écrit un peu comme sous la dictée de leur patron, sous l'inspiration de leur Dieu. Ils ont transmis aux hommes le courrier de Dieu. Dans ce livre-là, Dieu se fait connaître. Il faut donc le lire comme à cœur ouvert, par les yeux du cœur, dans la foi. Alors, Dieu nous devient réellement quelqu'un de précis, de vrai, qu'on apprend à connaître tous les jours à la lecture de son livre. Le Christ se révèle dans ce livre. Quelqu'un disait que le Christ est tout entier dans la Bible tout entière. Il y a quelques années, bientôt 20 ans maintenant, j'ai été envoyé en Algérie pour mon service militaire. C'était pendant la guerre d'Algérie. Et avant de quitter Paris, avec ma fiancée, qui est aujourd'hui ma femme, nous nous étions promis quelque chose d'impossible. Nous avons pourtant tenu. Savez-vous quoi? Nous nous étions promis de nous écrire tous les jours. Tous les jours. Et tous les jours, j'avais une lettre de Jeanne, qui m'arrivait avec une régularité extraordinaire. Et tous les jours, elle avait une lettre de moi. Pour cela, il ne fallait pas avoir le poignet foulé, ni un poil dans la main. Et quand j'avais en main ces lettres de Jeanne, là-bas, dans ma solitude militaire, qu'est-ce que j'en faisais? Ah, je courais dans ma chambre et là, je les ouvrais rapidement, fébrilement, je les ouvrais Et je commençais de les lire, de les lire, de les relire, de les dévorer même, ces lettres. Oui, je les dévorais sans avaler le papier, bien sûr, vous l'avez deviné. Mais que j'aimais ces lettres, et quelle présence elles représentaient pour moi dans cette solitude militaire. Et dans les lettres de Jeanne, qui pourrait dire ici ce soir ce que je cherchais? Je cherchais quoi? Les fautes d'orthographe. Vous n'y pensez pas, hein? Je peux vous dire qu'à ce sujet, vraiment, je n'ai jamais eu de difficulté. Je pense que de son côté, c'était la même chose. Mais qu'est-ce que je cherchais dans les lettres de Jeanne? Qui pourrait le dire ici? Quoi donc? Son amour, c'est vrai. Je dirais bien plus que son amour. Quoi donc? Mais oui, dans les lettres de Jeanne, c'est clair, je cherchais Jeanne. Hein? Dans les lettres de Jeanne, je cherchais Jeanne. Eh bien, à tous les coups, je la trouvais, je la rencontrais dans ce qu'elle m'écrivait. Eh bien, quand nous lisons ce livre, c'est un peu comme cela qu'il faut le lire. Il faut y trouver son auteur dans ses lignes, derrière ses lignes, entre ses lignes. Il y a bien plus qu'une cause première, une intelligence supérieure ou une existence fondamentale, comme l'a dit un jour Jean Rostand qui vient de mourir. Il y a dans ces lignes un cœur, une présence à découvrir, une personne à rencontrer. Savez-vous que ce livre nous offre bien plus qu'une religion à laquelle adhérer, bien plus et mieux que cela. Ce livre nous offre une relation avec le Christ dans la foi. Et c'est dans la mesure où nous partons à le lire de cette manière-là que nous rencontrons cette personne qu'il nous présente. Avez-vous, mon ami, ici, présent, rencontré le Christ dans son livre? Ou peut-être vous reste-t-il encore le Christ quelqu'un de vague, d'imprécis, dont vous avez entendu parler sur les bancs de l'école du dimanche, au catéchisme, et qui vous reste inconnu, étranger. Oh, le Christ voudrait que vous le connaissiez. Il voudrait que vous le rencontriez. Et pour cela, il vous faut la foi. Il vous faut la foi. Dieu ne s'approche dans le temps présent. Le Christ ne peut s'approcher dans le temps présent que par la foi. Et la foi est une vue intérieure sur lui. Vous pourriez ce soir lui dire, « Seigneur, tu vois combien dans mon cœur je suis aveugle. Tu vois quelle obscurité en moi, Seigneur, quant aux choses qui te concernent. Oh, éclaire-moi, Seigneur, et sauve-moi ce soir. » Il vous donnera ainsi, gratuitement, les vers de la foi qui corrigeront votre vision sur lui. Et alors, mais ce sera une vraie révolution de lumière. Pour l'heure qu'il est, vous avancez avec une canne blanche à la main. Et votre canne est toute votre lumière. C'est tout, une canne blanche, toute votre lumière. Et cette canne blanche peut être ce soir pour vous mille et une choses. Ce peut être l'idéologie, la science. Ce peut être même une religion morte, poussiéreuse. Une canne blanche avec laquelle vous essayez de dégager un chemin difficilement. Oh, le Christ voudrait que ce soir vous puissiez enfin voir. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Oh, il faut que vous voyez, vous puissiez voir clair sur un plan spirituel, sur le plan religieux. Et le Christ vous dit ce soir, jette donc ta canne et vois. Jette ta canne et vois. Voudriez-vous ce soir jeter votre canne et voir? Voir par les yeux du cœur. Avoir enfin contact avec le Christ. Et c'est de cette manière-là dans ce sens-là, par ce moyen-là, qu'alors votre regard physique reflètera un peu de ce regard spirituel que vous fixerez sur votre Sauveur et qui éclairera toute votre vie. Le Christ est mort sur la croix pour que nous puissions réellement voir des yeux du cœur. Il est mort pour nos péchés. Ce sont nos péchés qui rendent notre vision de Dieu ainsi trouble, vague, floue. Oui, le péché nous voile la face de Dieu. Or, Dieu voudrait que nous le regardions en face. Que j'aime ce verset en 2 Corinthiens 3, 18, qui dit « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Savez-vous que c'est en regardant au Christ dans son cœur qu'on est transformé dans sa vie, à son image? Où regardez-vous dans votre cœur? À lui ou à quelqu'un d'autre? Puissiez-vous ce soir n'avoir Dieu intérieur que pour lui, dans la foi? Puissiez-vous enfin ce soir lui faire pleinement, totalement confiance, lui remettre votre vie entièrement, prendre sa main et commencer de cheminer avec lui sur cette terre? Puissiez-vous le voir, ce Christ, dans votre cœur par la foi, à la lecture de sa parole. C'est en tout cas la prière que je dis ce soir à Dieu pour vous. Voudriez-vous ce soir qu'il illumine les yeux de votre cœur? Mettez votre confiance en lui. Croyez qu'il est mort pour vos péchés. Demandez-lui qu'il vous vienne en aide. Dites-lui pardon pour tous ces regards qui ont souillé votre âme, noirci votre cœur. Dites-lui, Seigneur, pardonne, purifie. Donne-moi enfin une conscience nette, pure, dégagée de tout péché. Ô Seigneur, je voudrais ce soir me refaire une existence avec toi. Je prends ta main. Seigneur, viens-moi en aide, je regarde à toi. La première chose que le Christ vous donnera de regarder, de voir, c'est cette croix sur laquelle il est mort pour vos péchés. Vous la verrez, cette croix, dans son livre. Et par la foi, vous vous confierez en elle. C'est elle qui éclairera votre chemin, dégagera tout ce qui fait obstacle. Oui, c'est elle qui vous rapprochera de Dieu, vous le fera saisir, vous le fera connaître. Alors ce soir, regardez à la croix du Christ. Confessez votre péché, demandez pardon et dites merci Seigneur parce que ce soir, tu me sauves. Je regarde à toi maintenant. Je veux croire que plusieurs ici ce soir voudraient réellement prier de cette manière-là, de tout leur cœur. J'aimerais leur en donner une occasion. Nous allons maintenant glisser dans un moment de recueillement, de prière. Et dans ce moment de prière, de recueillement, du dedans, par le cœur, vous vous mettrez en direct avec le Christ. Vous lui parlerez avec vos mots de tous les jours, mais vous serez vrai dans ce que vous lui direz. Et vous lui direz surtout, Seigneur, ce soir, fais-moi passer des ténèbres à ta lumière. Seigneur, que je puisse ce soir réellement te voir, toi, dans mon cœur, par les yeux du cœur. Seigneur, je prends ta main. Eh bien, nous prions maintenant. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci parce que tu veux que nous te rencontrions, que nous te connaissions. Seigneur, tu veux que
nos regards intérieurs se fixent sur toi, pour que nos regards physiques soient gardés du péché. Seigneur, merci pour ces yeux que tu nous as donnés, grâce auxquels nous pouvons voir quelque chose de ta beauté, de ta gloire, de ta puissance dans ta création. Mais ce que nous voyons de nos yeux physiques n'est rien comparé à ce que nous pouvons voir des yeux de notre cœur en regardant à toi. Seigneur, toi le Fils de Dieu, oh, donne la foi, Seigneur, à ceux qui ne l'ont pas encore dans ce lieu ce soir, la foi qui sauve, la foi qui attache au Christ, la foi qui permet de servir le Christ, la foi qui permet d'attendre le Christ. Ô Seigneur, accorde la foi à ceux et celles qui, dans ce lieu ce soir, ne l'ont pas encore. Rencontre-les, sauve-les, Seigneur. Ôte leurs péchés, accorde-leur le pardon de leurs péchés et la vie nouvelle, la vie éternelle en toi. Merci pour cette soirée. Au nom de Jésus. Amen.
Bien sûr que dans ce livre, des hommes parlent de Dieu. Mais ce ne sont pas là, disons, des réflexions qui nous sont données sur ce que des hommes ont pensé de Dieu. Leur cogitation, le fruit de leur réflexion personnelle, de leur méditation sur Dieu. Mais pas du tout. Ce livre n'est pas tant un livre dans lequel des hommes parlent de Dieu. C'est un livre dans lequel Dieu parle des hommes et puis aussi de lui-même. Quand on affirme ceci, on nous renvoie la balle en ces termes.